Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos, donc tous ensemble. Ce soir, les questions se multiplient face au virus. La cinquième vague déferle. Alors, comment organiser Noël? Est-ce qu'il faut vacciner nos enfants? Est-ce que le variant Omicron nous menace? Et puis, faut-il débattre de la vaccination obligatoire? Bruxelles ouvre la porte aujourd'hui, Paris la referme. Sur tous ces sujets, Arnaud Fontanet va vous aider à y voir plus clair. L'éminent membre du Conseil scientifique sera notre invité de 18h15 et il répondra aussi à vos questions au 3210. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calèche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une championne de judo au visage tuméfié, son agresseur présumé relaxé. Le monde du sport s'émeut. Le parquet fait appel. Récit dès le début de ce journal. Les mots d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres sur l'affaire Nicolas Hulot, information RTL. Il salue la libération de la parole des femmes, mais dénonce en même temps les tribunaux médiatiques. À suivre aussi le combat des SAM pour la poursuite de leur activité de métallurgie dans l'Aveyron et le combat des pro-avortements aux États-Unis. La Cour suprême, désormais majoritairement conservatrice, se penche aujourd'hui sur l'IVG. Les courses dans le Quintet Plus à Deauville, il fallait jouer le 15, l'As, le 10, le 2 et le 14.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'interrogera. Éric Zemmour avait-il le droit d'utiliser des images de films, de JT dans sa vidéo de candidature? 18h40, on défait le monde, vos 20 minutes de découverte avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Ce soir, vous allez comprendre comment les candidats financent leur très chère campagne présidentielle. Dont emprunt, trésor de guerre ou vente de t-shirts. C'est un peu qui veut donner des millions. Au menu également, reportage Céline en immersion chez les électeurs qu'on n'entend pas, qui ne militent pas et qui s'apprêtent à revoter Macron en 2022.
19h15, on va refaire le monde, débattre autour d'Éric Brunet, notamment de la vaccination obligatoire ce soir. Des points réguliers tout au long de l'émission sur le temps également avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Retour du froid demain sous un ciel de traîne, donc mitigé.
Détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et c'est donc une décision de justice qui enflamme le monde du sport, jusqu'à Teddy Riner ou Clarisse Agbenenou. La relaxe hier d'un entraîneur de judo accusé de violence conjugale.
Par sa compagne, la championne olympique Margot Pino, qui a posté sur les réseaux sociaux une photo de son visage tuméfié. Mais l'affaire n'est pas terminée, Anne Le Naf, le parquet de Bobigny fait appel de la relaxe.
Oui, l'accusation avait demandé 1 an de prison avec sursis. Mais la présidente de la Cour a relaxé Alain Schmitt hier soir au bénéfice du doute. Nous n'avons pas assez de preuves de culpabilité, a-t-elle dit. Ce qui révolte la judokate, jointe par Jean-Michel Rascol.
Je me suis fait cogner à coups de poing, il m'a pris la tête, il a cogné contre le sol, il a essayé de m'étrangler. J'ai vraiment cru mourir, j'ai réussi à me dégager de lui. Que je me suis dit, bah là, si tu sors pas de chez toi, t'es morte. Je comprends que les femmes n'osent pas porter plainte parce qu'au final, ça mène à rien.
L'entraîneur, lui, parle d'une dispute violente des deux côtés. Deux versions contradictoires, donc, son avocat Malik Belloul.
Nous, on plaidait la légitime défense et à titre subsidiaire, le bénéfice du doute. Vu le physique, la carrure, la force que peut déployer M. Schmitt, les violences qui sont décrites par Mme Pino ne correspondent pas à l'état de ses blessures. Lorsqu'il a été relaxé, ça a été une délivrance.
Il y aura donc un nouveau procès, la date n'est pas encore connue.
Les explications de Anne Le Naf du service police-justice de RTL. Dans un autre dossier d'accusation de violence faite aux femmes, voilà une sortie qui risque de ne pas passer inaperçue.
Vous nous l'a révélé ce soir pour RTL, William Galibert. En Conseil des ministres tout à l'heure, Emmanuel Macron est revenu sur l'affaire Nicolas Hulot.
Oui, c'est la première fois que le président réagit depuis les nouvelles accusations contre celui, rappelons-le, qui était pendant presque 1 an et demi son ministre de l'écologie et le numéro 3 de son gouvernement. Que dit le président? Il faut que la parole des femmes se libère. Et c'est très bien qu'elle se libère. Avant d'ajouter une nuance de taille. Mais la justice, dit Emmanuel Macron, la justice ne se rend pas dans les tribunaux médiatiques. Ces propos, plusieurs participants au Conseil des ministres ce matin ont pu les confirmer à RTL. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État réagit à des accusations contre Nicolas Hulot. En 2018, alors que ce dernier était toujours ministre, le porte-parole de l'Élysée expliquait qu'Emmanuel Macron accueillait tout ça avec, je cite, « une sérénité de marbre ». Depuis, 3 ans se sont écoulés. Et après le reportage d'Envoyé spécial la semaine dernière, une nouvelle enquête qui cible le comportement de Nicolas Hulot envers les femmes doit être publié demain par l'hebdomadaire Paris Match.
Emmanuel Macron qui fustige donc le tribunal médiatique en Conseil Conseil des ministres Information RTL, signé William Galibert. Merci William.
Le parc des expositions de Villepinte plutôt que le Zénith. Éric Zemmour annonce ce soir sur Twitter le déménagement de son premier meeting de campagne. Ce sera dimanche, expliquant qu'il y avait trop de demandes. Face à la cinquième vague, face au variant Omicron, c'est une petite musique qui commence à se faire entendre, celle de la vaccination obligatoire. L'Allemagne se prononcera d'ici la fin de l'année. L'Autriche sautera le pas le 1er février. Pour la présidente de la Commission européenne, le sujet ne doit pas être tabou.
Un tiers des Européens ne sont pas vaccinés, c'est beaucoup. Tous ne doivent pas être vaccinés, comme les tout-petits par exemple, ou les personnes ayant certaines pathologies. Mais la plus grande partie le peut. C'est pourquoi je pense qu'il est raisonnable et approprié d'avoir cette discussion sur la vaccination obligatoire. C'est une discussion qui doit être menée.
Mais face à Ursula von der Leyen, que vous venez d'entendre, la France, elle, assure avoir choisi une autre voie. On n'en est pas là, assure ainsi le ministre de la Santé.
L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait. D'abord, qu'allons-nous dire à une personne âgée chez elle qui ne s'est pas fait vacciner ? Est-ce qu'on va mettre un régime d'amende ? Est-ce que c'est... Enfin, qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. Bien sûr, je souhaite ardemment que ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de se faire vacciner le fassent. Et sans obligation, si possible, évidemment. Nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire, qui a été un incitatif puissant. C'est notre sésame pour en sortir sans mesure supplémentaire.
Olivier Véran, qui, face à la difficulté d'obtenir des rendez-vous pour le rappel, promet une majoration pour les pharmaciens qui vaccineront le week-end, pour les infirmiers qui vaccineront à domicile. Par ailleurs, 300 centres de vaccination supplémentaires ouvriront prochainement.
Et puis la France, par ailleurs, durcit son protocole sanitaire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, et ce, dès ce week-end, Benjamin Sportouche.
Oui, à partir de samedi, précisément, pour les voyageurs qui viennent d'un autre pays de l'Union européenne, seuls les non-vaccinés seront pénalisés puisqu'ils devront fournir un test de moins de 24 heures. Pour les voyageurs hors Union européenne, il leur faudra un test négatif de moins de 2 jours, même s'ils sont vaccinés. Et c'est bien plus strict, bien sûr, pour les pays d'Afrique australe comme l'Afrique du Sud. Certes, les vols vont reprendre samedi, mais les voyageurs entrent dans la catégorie rouge écarlate. Ils devront se plier à un test au départ de leur pays et à l'arrivée en France. Si le test est positif, isolement obligatoire de 10 jours dans un hôtel proche de l'aéroport, sous surveillance des forces de l'ordre, avec amende à la clé en cas d'infraction. Et si le test est négatif, eh bien pas de liberté de mouvement pour autant, isolement de 7 jours, y compris pour les personnes vaccinées, et contrôle de police aléatoire sur le lieu de confinement. Tout cela, bien sûr, vous l'avez compris, pour éviter la propagation du variant Omicron. Il y a aujourd'hui 13 cas suspects sur notre territoire.
Benjamin Sportouche, merci. Durcissement possible aussi, des conditions de voyage aux États-Unis, tests plus stricts et quarantaines évoquées aujourd'hui par des responsables sanitaires.
Et toujours aux États-Unis, dans un instant, dans ce journal sur RTL, l'avenir du droit à l'avortement devant la Cour suprême. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
RTL 18h09, la suite de votre journal avec ces manifestations en ce moment devant la Cour suprême à Washington, où les sages se penchent aujourd'hui sur le droit à l'avortement.
Oui, les 9 juges vont en effet se pencher sur une loi du Mississippi qui veut interdire l'IVG après 15 semaines de grossesse. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis. Les débats seront suivis de près, car c'est bien le droit à l'avortement qui pourrait être remis en cause.
Oui, d'un côté, enlevez vos mains de nos bébés, de l'autre, ôtez vos mains de notre corps. Cette journée est capitale pour les Américaines. Alors, pro et anti-avortement crient leur colère ou leurs inquiétudes aux portes de la Cour suprême. À l'intérieur, les débats ont commencé.
Of course there will.
Retransmis en direct audio, les 9 juges écoutent les arguments des deux parties et leur posent éventuellement des questions. Le Mississippi veut interdire l'avortement après 15 semaines, contre 23 semaines environ actuellement. Pour certains, c'est une première attaque juridique avant de l'interdire totalement. La Cour ne statuera pas avant plusieurs mois, peut-être en juin. Mais les plaidoiries éclairent sur l'état d'esprit des juges, 6 conservateurs et 3 libéraux. Le simple fait que la Cour se saisisse du dossier, rien ne l'y oblige, est un premier indice. Une majorité des juges est à minima sensible aux arguments du Mississippi.
Lionel Gendron à New York pour RTL.
Le patron de Renault a promis hier de ne pas les laisser tomber. Mais pour les salariés de la SAM à Viviez dans l'Aveyron, c'est la pérennité de leur site qui doit être assurée.
Avec des métallos venus de toute la France, ils ont manifesté aujourd'hui entre 4 et 8 000 personnes pour dénoncer la décision du donneur d'ordre Renault de ne pas soutenir le projet de reprise du site. Eux, croit en son avenir, à l'image de Stéphanie, salariée depuis 25 ans à la SAM et venue manifester avec son fils.
Là, on a l'impression que tout s'effondre, on a l'impression qu'on nous ment, qu'on nous trahit et on aimerait que les choses changent. On n'est pas que des numéros dans la vie. Ce sont des humains, ce sont des familles, ce sont des histoires de vie. C'est compliqué ce qu'ils nous font subir, c'est compliqué.
Votre petit garçon, comment s'appelle-t-il ?
Lucas.
Bonjour Lucas. Qu'est-ce qu'il y a de marqué alors sur les panneaux que tu portes ?
Je suis petit Sam et le travail de ma maman est aussi mon avenir.
Pour l'aider à grandir dans sa ville, il faut que j'ai du travail dans ma ville. Je suis née ici, je veux travailler ici, j'ai acheté ma maison ici et je veux que mon fils ait la chance de grandir dans notre ville. Quand je suis arrivée ici, j'avais 20 ans. Je pleurais parce que je ne voulais pas rester. Maintenant, je pleure parce que je ne veux pas partir.
Stéphanie et son fils dans la manifestation de la SAM en Aveyron, micro RTL de Patrick Tégéreau. Il y a quelques années, on aurait pu croire à de la science-fiction. À l'occasion des Assises du commerce à Bercy, petit retour d'horizon ce soir des courses et du shopping de demain. Toujours plus vite, toujours moins d'humains. Pour RTL, Pierre Arbulot.
Le commerce du futur, c'est un magasin sans caisse. Les expérimentations ont déjà commencé partout dans le monde et même en France, avec Auchan dans un campus du Nord et Carrefour en plein cœur de Paris. Des caméras ultra perfectionnées détectent les produits retirés des rayons. Le consommateur n'a plus qu'à régler à une borne quand il n'est pas directement débité via une appli. Demain, les boutiques seront aussi évidemment toujours plus digitales, plus technologiques. Certaines chaînes de vêtements développent par exemple des miroirs connectés pour simuler des essayages. Ce sera des livraisons par drone, en voiture autonome. Les commerces seront plus hybrides aussi avec le développement des corners, ces petits bouts d'un magasin dans un autre, comme un rayon sport Décathlon chez Franprix, par exemple. Enfin, et c'est une spécificité française, le vrac devrait faire une progression fulgurante dans les super et les hypermarchés. La loi climat en impose au moins 20% d'ici 2030.
Voilà, et demain, il sera donc toujours très important de ne pas oublier ces petits pochons en tissu pour le vrac.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Figurez-vous que les masques peuvent aussi servir à faire des maths. À Limoges, la municipalité vient de distribuer des kits de géométrie. Équerre, rapporteur, règle, ça vous rappellera des souvenirs réalisés à partir de masques récupérés par la ville depuis la mi-mai et transformés par une entreprise du département voisin de la Vienne. 320 000 masques récupérés, 6 000 kits fabriqués.
Ça c'est chouette, ouais. Rien ne se perd, tout se transforme. Merci beaucoup Marion Calais. Le temps maintenant, Peggy.
Je ne vais pas vous dire chouette parce que c'est pas vrai, sauf sur quelques régions, peut-être la Méditerranée, oui, ouais. On a du soleil
toujours
avec du vent.
Eh
bien oui, c'est vrai. Mais sur le nord-ouest aussi, on va retrouver des éclaircies et même jusqu'à l'Aquitaine dans l'après-midi. Après, c'est vrai, c'est un temps plutôt mitigé, ce qu'on appelle un ciel de traîne entre les Pyrénées et les régions de l'Est. On aura des nuages, quelques éclaircies dans l'après-midi, des averses, de la neige à basse altitude également, avec le retour du froid. Et sur les frontières du nord, on pourrait même avoir un peu de neige en pleine, quelques flocons tout au long de la journée. Les températures, du coup, vous l'avez compris, elles seront plus froides, en tout cas en baisse, globalement comprises entre 0 et 5 degrés demain matin, jusqu'à 7 près de la Méditerranée. Et les maximales, de 4 à Besançon à 14 à Nice, 6 à Paris, Strasbourg, Limoges et 8 à Toulouse.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, on s'interroge. Éric Zemmour va-t-il payer cher sa candidature à la présidentielle ? On s'explique. Hier, le polémiste a annoncé son entrée en campagne avec une vidéo 10 minutes au ton dramatique avec des extraits de JT, des archives du général de Gaulle, des images de vieux films français, de monuments classés. Et depuis, on ne compte plus les personnalités ou les institutions qui réclament le retrait de ce clip. À chaque fois le même argument, l'équipe Zemmour n'a pas demandé d'autorisation pour utiliser ces images. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Déjà, qui s'insurge ?
Eh bien, beaucoup de monde en effet, des médias comme France 3 ou l'agence France Presse, car des morceaux de reportage ont été utilisés. Des ayants droit aussi, car il y a des extraits de films avec Jean Gabin ou encore Jean-Paul Belmondo. Bernard Cerf, le neveu de la chanteuse Barbara, qui apparaît elle aussi dans le clip, n'a pas été prévenu.
Je trouve cette appropriation de Barbara tout à fait scandaleuse. L'homme dont nous parlons a le droit d'aimer qui veut ou pas, c'est son droit. Mais mettre une image de Barbara, c'est laisser à croire que ses ayants droit ont donné un accord. Or, je n'ai pas donné un accord du tout.
Alors voilà, Bernard Cerf qui parle à Laurent Marsic pour RTL et beaucoup se sont donc rapprochés de leurs avocats pour donner des suites judiciaires.
Éric Zemmour, est-ce qu'il a le droit d'utiliser 2 secondes d'archives par-ci, 2 secondes de film par-là ?
Oui, c'est possible, comme pour toutes les vidéos. Vous avez le droit, en fait, d'utiliser quelques secondes d'images qui ne vous appartiennent pas. Et c'est probablement, l'argument que vont utiliser ses avocats.
Mais c'est légal ?
Oui, mais à condition d'en avoir l'autorisation. Et c'est bien là le problème. Visiblement, elles n'ont pas été demandées avant la diffusion, comme en témoignent ceux qui apparaissent dans le clip. Ensuite, les équipes d'Éric Zemmour invoquent le droit de la courte citation. Diffuser quelques secondes des images, c'est légal, sans accord. Mais uniquement si c'est dans le cadre de sujets d'information, comme ici, à la radio ou à la télévision par exemple, et il faut impérativement citer la source, ce qui n'est pas le cas.
Il risque quoi, Éric Zemmour ? Ça peut lui coûter cher ?
Alors ça peut lui coûter cher, oui, car il y a des dizaines d'extraits et donc potentiellement bien des dizaines de plaignants. Ils peuvent saisir le juge et demander à ce que les images ne soient plus diffusées. Ils pourront aussi être indemnisés pour le préjudice subi et cela peut se compter en centaines de milliers d'euros.
Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Une petite pause dans RTL Soir et ensuite on va se demander comment gérer Noël face au virus. Est-ce qu'il faut craindre la montée de la 5e vague ? Est-ce qu'il faut craindre le nouveau variant ? Est-ce qu'il faut débattre de la vaccination obligatoire ? Arnaud Fontanet, éminent membre du Conseil scientifique, sera notre invité sur RTL et vous allez pouvoir lui poser vos questions au 3210. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
18h19, bonne fin de journée, vous écoutez RTL et ce soir on est peut-être tous un peu perdus face à cette 5e vague du Covid, elle grimpe, des familles se demandent déjà comment fêter Noël, des familles se demandent s'il faudra vacciner les enfants, le monde entier se demande si le variant Omicron va changer la donne. Ce soir on va donc essayer d'y voir plus clair. Vous allez pouvoir au 3210 poser vos questions à notre invité Arnaud Fontanet. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre éminent du Conseil scientifique épidémiologique à l'Institut Pasteur. Un mot des courbes, tout d'abord, de l'épidémie. Le ministre de la Santé disait hier 47 000 cas recensés sur la journée de lundi. C'est du jamais vu depuis avril. Il parlait d'une hausse de contamination de 60% par semaine. Question simple, si on ne change rien, si on ne prend pas de mesures, est-ce que la courbe va rester exponentielle ? En clair, est-ce qu'on risque les 100 000 cas quotidiens d'ici Noël ?
Alors... D'abord, c'était quelque chose que malheureusement on avait anticipé, puisqu'on sait que dans les périodes hivernales, les personnes étant plus en intérieur, milieu clos, le virus se transmet plus facilement, qu'on a affaire à un variant Delta qui est très transmissible, plus transmissible que ses prédécesseurs. Et cette dynamique qu'on observe et qui a d'ailleurs qui avait débuté un peu plus tôt chez nos voisins était attendue. Alors maintenant, vous avez peut-être vu hier les projections qui viennent des modélisations de Simon Cauchemez à l'Institut Pasteur. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est que si on ne change rien par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est pas qu'on fasse rien actuellement. Hein, on a déjà un certain niveau de contrôle, mais si on ne serre pas un peu plus la vis, effectivement, à la période de Noël. Un peu après, en janvier, on va se retrouver dans une situation avec un risque d'avoir jusqu'à 2000-2500 admissions à l'hôpital chaque jour. Ça, c'était le niveau qu'on avait l'année dernière pendant la deuxième vague. Et ce serait extrêmement dur pour le système hospitalier qui, vous le savez, est déjà très éprouvé. La bonne nouvelle, si je peux dire qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que à la différence de l'année dernière, où vous aviez encore 90% de la population qui était susceptible à l'infection, et où seul un couvre-feu ou un confinement pouvait stopper la vague, cette fois-ci, si on diminue par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui de 20% nos contacts, on arrivera à juguler cette 5e vague et à l'amener à des niveaux beaucoup plus acceptables. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un couvre-feu c'est 50%, un confinement c'est 80% de diminution des contacts, 20% c'est ajuster un peu les curseurs par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un petit effort de chacun sur diminuons nos sorties, faisons attention, on ne fait pas des fêtes avec plein d'amis, on fait plutôt des dîners avec quelques amis, on fait attention, on aère bien, on porte bien le masque en milieu clos. C'est tous ces petits gestes qui peuvent nous permettre de diminuer notre risque donc de 20% et du coup d'éviter une 5e vague qui engorgerait les hôpitaux au point de les saturer.
Et est-ce qu'au-delà de l'appel à la responsabilité individuelle, il faut aussi peut-être réintroduire des restrictions? On a l'impression que le mot est devenu presque tabou aujourd'hui, mais est-ce que médicalement, je parle, le retour de jauge dans les restaurants, du masque dans les stades, le retour à un télétravail plus important, est-ce que ça peut permettre aussi de freiner cette courbe ?
Alors ça peut y participer, ça c'est vraiment des décisions qui reviennent au gouvernement. Il y a toute une palette d'outils à leur disposition autour du pass sanitaire et des lieux qui sont régis par le pass sanitaire. le masque en lieu clos, y compris sous passe sanitaire, c'est quelque chose qui est important quand c'est possible. Hein. Il y a évidemment les restaurants ou les bars où ça va être difficile, mais pour les autres lieux, oui, il faut mettre le masque.
Ça veut dire que le meeting politique, par exemple, il faudrait un passe sanitaire, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Et en tout cas, il y a toute une série de mesures à prendre, mais une fois de plus, qui dépendront là du choix du gouvernement, sur ces curseurs autour du télétravail, autour de renforcement du passe sanitaire, du dépistage, par exemple, en milieu scolaire, des choses comme ça, qui pourront nous aider et qui viendront en complément de ce que nous, on peut faire individuellement, parce qu'on peut déjà faire beaucoup nous-mêmes.
Juste un mot de la vaccination obligatoire. C'est un peu le débat qui monte en ce moment chez nos voisins, en Allemagne par exemple, en Autriche, où ce sera instauré en février. La présidente de la Commission européenne dit aujourd'hui qu'il faut ouvrir le débat. Le gouvernement, pour l'instant, n'est pas du tout prêt à ouvrir le débat. Simplement, est-ce que sur un plan épidémiologique, ça a du sens, la vaccination obligatoire ?
Alors, avoir un débat... Pour moi, ça me paraît tout à fait naturel. Hein. C'est important de pouvoir discuter de tous les sujets. Maintenant, je ne vous cache pas que quand je vois où on est arrivé sans passer par la vaccination obligatoire, hein, c'est-à-dire 90% de la population adulte qui est vaccinée aujourd'hui, alors qu'on partait en étant un des pays les plus vaccinosceptiques de l'Europe, avec 40% de personnes l'année dernière qui disaient qu'elles ne se vaccineraient pas, y être arrivé... avec les moyens qu'on connaît, hein, y compris l'incitation que le pass sanitaire a constituée, c'est finalement, je trouve, plutôt un succès. Et qu'est-ce que vous apporterait l'obligation à partir du moment où vous n'auriez pas les moyens, de toute façon, de pénaliser les personnes qui ne s'y soumettraient pas ? Vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire de quelqu'un qui n'est pas vacciné, etc. Donc je pense que on reste toujours sur une dynamique, pour l'instant, qui est bonne par rapport à la vaccination. Peut-être que la persuasion a atteint ses limites. Hein. Je ne me fais pas trop d'illusions sur les 10% qui ne se sont pas encore vaccinés aujourd'hui. Ouais. Encore qu'il y a des nouvelles premières injections, hein, tous les jours. Et puis, l'incitation du pass sanitaire se maintenant. Voilà, on va peut-être encore grappiller quelques pourcents. Mais je ne suis pas sûr que la vaccination obligatoire, surtout si vous n'avez pas derrière des moyens de l'appliquer, apporterait quelque chose.
Alors là, le pass sanitaire, vous en parliez, il va expirer pour les personnes à terme qui ne feront pas leur rappel, leur troisième dose pour la plupart des personnes. Est-ce que cette troisième dose, le gouvernement compte beaucoup dessus, peut là aussi, si elle est injectée massivement à beaucoup de personnes dans les jours, dans les semaines à venir, permettre de freiner cette courbe qui pour l'instant paraît extrêmement verticale des contaminations et peut-être donc des entrées à terme à l'hôpital?
Oui, je pense que la dose de rappel aura un impact sur l'épidémie. C'est ce que montaient les projections de Simon Cauchemas de l'Institut Pasteur. Et il est très important de faire cette dose de rappel. Alors d'abord, il y a une vraie priorité qui sont les personnes à risque de forme grave. C'est-à-dire que les plus de 60 ans, les personnes qui ont des comorbidités doivent absolument faire cette dose de rappel parce qu'ils sont à risque de forme grave et cette dose de rappel est essentielle pour eux. Et puis pour les plus jeunes, la dose de rappel, c'est ce qui va contribuer à freiner la progression de l'épidémie. Et finalement, quand je vous disais, bon, on est avec ce variant Delta qui représente une menace assez imminente sur le système de santé pour lequel il faut réagir dès maintenant, avec les mesures de contrôle de la circulation du virus et avec les doses de rappel, c'est aussi préparer le terrain par rapport à l'Omicron, hein, qui est ce fameux variant dont on a pris connaissance la semaine dernière. Parce que si on a tous eu une dose de rappel au moment où le variant Omicron va commencer à émerger chez nous, on sera mieux protégé par rapport à ce que les vaccins pourraient nous apporter.
Sur cette troisième dose, on a une question de Alain qui nous a appelé de Auxerre au 3210. Écoutez le film.
Nous avons beaucoup de difficultés à trouver un endroit pour faire la troisième. Et je souhaitais donc savoir si nous étions toujours protégés, même si on tarde un petit peu à trouver un endroit où faire la dose de rappel.
Voilà, le gouvernement promet, on le rappelle, l'ouverture de nouveaux créneaux très rapidement. Au bout de 5-6 mois, rapidement, Arnaud Fontanet, après la deuxième dose, on est effectivement moins protégé ?
Alors il y a deux choses. Il y a la protection contre l'infection. À 6 mois après, si on a eu deux doses d'ARN messager, on est protégé à 50% contre l'infection. Mais on reste protégé à 90% contre les formes graves, et ça c'est très important. Après, on se rend compte, à partir de 6 mois, et notamment pour les plus de 60 ans ou les personnes avec comorbidité, que cette protection contre les formes graves commence à diminuer, et c'est pour ça qu'il est très important de faire sa dose de rappel quand on appartient à ces groupes.
Et donc on a beaucoup de personnes, d'auditeurs, qui aimeraient faire leur dose de rappel avant Noël, fatalement, avant les fêtes de famille. On se demande un petit peu à quoi vont ressembler ces fêtes de fin d'année. On a justement Jeanne qui, elle, nous appelle au 3210 de Dijon pour échanger avec vous. On écoute son message.
Je voudrais faire Noël justement avec ma famille. Nous serons à peu près une quinzaine et j'aurais voulu savoir, est-ce que vous jugez ça raisonnable? Quels conseils vous pourriez nous donner pour qu'on puisse être tranquille et passer vraiment un joyeux Noël?
Bon, quel est votre conseil pour Noël, Arnaud Fontanet? Je vous ai entendu dire plutôt 6 à table et pas 12, c'est ça?
Alors, il y a déjà, effectivement, bon, essayer de ne pas être trop nombreux. Dans les autres conseils, c'est si vous avez des personnes fragiles avec vous, vous les mettez un peu sur le côté. Ces personnes peuvent porter un masque. N'oubliez pas d'aérer. Et puis, il y a aussi la possibilité de se faire un test antigénique. Vous savez que ces tests antigéniques, alors c'est un petit budget, c'est 5 euros par test, mais ça vous dit si vous êtes contagieux le jour même. Donc, à la limite, vous mettez dans votre budget de votre buffet de Noël un test antigénique pour tout le monde, 5 euros, et vous regardez si vous êtes contagieux ou pas. Il faut savoir que des Anglais, par exemple, aujourd'hui, utilisent énormément ces tests antigéniques pour réguler leur vie quotidienne.
C'est fiable.
Alors, ils vous disent si vous êtes contagieux.
D'accord.
Donc, ils sont pas aussi, ce qu'on appelle, sensibles qu'une PCR qui peut détecter une infection débutante un petit peu plus tôt. Mais, globalement, si vous avez un événement, vous le faites le jour même et vous savez si vous êtes contagieux ou pas.
Quand on entend des plus petites tablées, on a l'impression d'entendre le conseil de l'an dernier à la même époque, Arnaud Fontanet. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent « Mais l'an dernier, je n'étais pas vacciné, on me donnait ce conseil-là. Maintenant, je suis vacciné, on me donne le même conseil. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ?»
Simplement, on a un virus qui est 2 fois plus transmissible que l'année dernière. Le Delta, donc, est un R0 à 6. Le D614G de l'année dernière était à 3. Et on a une perte d'efficacité à 6 mois puis de contre l'infection à 50%. Donc, ça équivaut à peu près à la situation où on était l'année dernière par rapport à l'infection. En revanche, par rapport aux formes graves, on est quand même beaucoup mieux protégé que l'année dernière. Mais voilà, on se retrouve dans ce moment un peu critique, où on risque de saturer les hôpitaux pour une période brève. Donc c'est là où il faut maintenant juste faire un effort et passer ce cap un peu critique.
Vous restez avec nous, Arnaud Fontanet. On marque une toute petite page de pub et ensuite on va accueillir de nouveaux auditeurs au 3210. On va parler à la fois de la vaccination des enfants, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et de ce fameux variant Omicron. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, 18h32, vous pouvez encore échanger au 3210 avec Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, qui est avec nous ce soir pour nous éclairer sur toutes les questions face à cette cinquième vague du virus. On évoquait Noël, Arnaud Fontanet, c'est vrai que c'est l'une des craintes des familles, les retrouvailles entre les enfants et les grands-parents, parce qu'on voit le taux d'incidence pour les écoliers de l'école primaire en ce moment exploser, 654 enfants malades pour 100 000 personnes, c'est le double de la population générale. La Haute Autorité de Santé dit « Vaccinons les 5-11 ans fragiles, les 5-11 ans qui vivent avec des adultes immunodéprimés. Est-ce qu'il y a urgence, là en tout cas pour ces 5-11 ans, et est-ce qu'on va de toute façon vers une vaccination de l'ensemble de ces enfants, en tout cas proposée aux parents ?»
Alors, vis-à-vis des 5-11 ans, l'information qu'on aimerait avoir et qu'on aura dans 3 semaines, c'est l'innocuité, la très bonne tolérance du vaccin chez les enfants de 5 à 11 ans, évaluée sur 3 millions d'enfants américains, puisque eux ont commencé à le faire et ils recueillent ces données. Et si, une fois qu'on saura qu'il n'y a pas eu d'effet indésirable grave sur 3 millions d'enfants, donc des chiffres qui n'ont rien à voir avec les 2000 enfants qui étaient dans l'essai qui a été publié jusqu'à présent, une fois qu'on aura cette information, on mettra dans la balance le risque, donc très proche de zéro si c'est ce qui se confirme, mais on n'a pas encore cette information, versus donc du vaccin, versus les risques de l'infection elle-même, qui, heureusement, c'est une maladie qui touche peu les enfants, on le sait depuis le début, mais quand même un peu, et on a des formes graves, et il y a malheureusement des décès. Et quand on commencera à faire le compte de ces formes graves, des formes inflammatoires, des décès qu'il y a eu, et qu'en face, on saura qu'on a un vaccin qui est parfaitement sûr, je pense qu'on aura envie d'aller vers la vaccination pour les 5 à 11 ans. Puis l'autre bénéfice, c'est qu'on voit bien qu'on ne sort pas complètement de cette épidémie, puisqu'il y a le variant Omicron qui pointe son nez. Ce qu'on veut aussi pour les enfants, c'est qu'ils puissent être protégés pour pouvoir avoir une vie scolaire normale, quoi, qu'ils ne soient plus suspendus à des fermetures de classe, etc. Et une des façons de leur garantir une bonne scolarité, ce sera de les vacciner. Donc, donnons-nous 3 semaines pour avoir les données complètes, et puis à ce moment-là, on prend la décision. Sachant que, si on voit que le vaccin est très bien toléré, moi, à titre personnel, je dis bien que c'est à titre personnel, puisqu'il y a des discussions en cours collégiales auxquelles je participe, je serais plutôt favorable quand je vois qu'il y a quand même, malgré tout, quelques formes graves chez les enfants, et puis pour leur donner une scolarité normale.
Vous parliez de l'école. Justement, on va écouter une directrice d'école élémentaire de l'Eure qui nous a appelé au 3210. On l'écoute.
En tant que directrice d'école et enseignante en élémentaire, nous sommes confrontés à de plus en plus de cas et donc nous devons nous partager entre le présentiel et le distanciel en enseignement. Pensez-vous qu'il serait plutôt souhaitable d'envisager d'avancer les vacances d'une semaine pour essayer d'éviter la propagation plus importante du virus ?
C'est une bonne idée, ça, Arnaud Fontanet, l'idée de Laurence qui nous a appelé de l'heure avant Noël, justement, avant les retrouvailles en famille.
Alors, je pense que la décision de bouger les vacances scolaires, c'est une décision qui a beaucoup d'autres impacts hein, et qui, une fois de plus, est une décision gouvernementale. J'en resterai plus sur les mesures telles qu'elles sont aujourd'hui proposées et qui sont appliquées, je suis sûr, dans la très grande majorité des écoles. Hein, c'est pas simple hein, avec la notion d'une fois de plus, hein, du port du masque pour tous les enfants. Alors, ça dépend jusqu'à quel âge. Hein. Là, je parle des enfants de plus de 5 ans. Et puis, de l'aération des locaux et limiter du brassage, éviter les contacts physiques entre les enfants dans les sports, les activités sportives, etc. Il y a tout un certain nombre de leviers sur lesquels on peut jouer. Et le domaine dans lequel... qui a été très difficile à mettre en place, mais où il pourrait y avoir des améliorations, c'est le domaine du dépistage. Hein. Alors, je sais que c'est une logistique qui est lourde, hein, qui est compliquée, qu'il y a des expérimentations qui sont en cours, mais c'est vrai qu'il y avait des modélisations de l'équipe de Vittoria Colizza de l'INSERM qui avaient montré que si vous arrivez à faire un dépistage une fois par semaine dans les écoles, primaires notamment, et que vous avez 75% d'adhésion des parents, là, vous commencez à casser les courbes de transmission. Après, je comprends que c'est quelque chose qui a l'air très difficile à mettre en place.
Pour terminer, parce qu'on a un petit peu malheureusement pressé par le temps. Ça arrive aussi à la radio. On a beaucoup parlé de cette cinquième vague, Arnaud Fontanet. On a évoqué par-ci, par-là, ce fameux variant Omicron. C'est vrai que le monde entier se demande s'il va être plus dangereux, résistant au vaccin. On nous dit, on nous répète qu'il faut attendre. On en est réduit à attendre. Arnaud Fontanet, on n'a pas davantage de nouvelles. Vous n'avez pas des infos secrètes à nous révéler sur ce variant Omicron ce soir ?
Non, je pense que le calendrier, on l'a un petit peu en tête. Dans 15 jours, on saura la capacité d'échappement à l'immunité de ce variant Omicron, il y aura peut-être des nouvelles qui arriveront avant.
Oui, mais le patron de Moderna dit qu'il faudra sans doute de nouveaux vaccins. Ça, c'est pas très rassurant.
Alors, pour l'instant, je pense que c'est attendons de voir déjà un test tout simple qu'on fait où on prend le sérum des personnes qui ont été vaccinées, on regarde s'il neutralise le virus. Ça prendra 15 jours. Après, on aura un peu plus d'informations sur la transmissibilité et puis sur la sévérité et sa capacité à donner des formes cliniques sévères. Mais pour moi, c'est pas absolument fondamental parce que en dehors d'être capable de dépister sur le territoire français des cas et de faire un testé alerté protégé ciblé sur ces cas. Ce qu'on est en train de faire pour le Delta va nous être utile pour l'Omicron et c'est ça qui est le principal. L'urgence actuelle, c'est le Delta. Freinons le Delta, ce qui permettra de freiner l'Omicron et d'empêcher de se développer en même temps. Faisons les doses de rappel parce que quand l'Omicron pourrait éventuellement émerger, et là on est plutôt vers après février 2022, je m'avance en disant cette date, hein, vous comprenez bien, mais plutôt dans cette période-là, et bien à ce moment-là, si on a tous reçu une dose de rappel, on sera beaucoup mieux armés pour faire face à ce variant Omicron. Donc ça ne change rien en notre stratégie, on a du temps pour recueillir ces informations tant qu'on se concentre sur le Delta qui est l'urgence immédiate.
Merci Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL, d'avoir répondu aussi aux questions, aux inquiétudes parfois des auditeurs alors que cette cinquième vague donc grimpe dans notre pays. Merci d'avoir été notre invité sur RTL. On va marquer une petite pause et ensuite dans RTL Soir, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. On va notamment vous expliquer dans un instant comment on finance une campagne électorale. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier.